Studio Tamani, voici nos informations en français.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Voici les titres. Le trafic des gros porteurs et des cars de transport sur l'axe Mali-Sénégal a été par le syndicat national des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali. Cette décision fait suite à l'accident qui a fait ce week-end 4 morts à Kaolack. Les épreuves du DEF se poursuivent un peu partout sur le territoire national, mais déjà les conditions de surveillance et les prochaines corrections suscitent des interrogations. La prolongation de la durée de la transition alimente les débats au sein de l'opinion nationale. Certains partis politiques de la société civile s'y opposent et d'autres y voient la nécessité de refonder le pays. À la présentation de ce journal, Hamsetou Touré à la mise en onde, Nouhoum Djiré. Le syndicat national des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali Sinacor a suspendu le trafic Mali-Sénégal sans pourtant fixer une date de reprise. Cette décision intervient après l'accident tragique qui a causé ce week-end à Kaolack la mort de 4 personnes. Les responsables du syndicat justifient cette décision par la sécurité de leurs membres. De son côté, le ministère malien du transport et des infrastructures dément les allégations selon lesquelles le ministère a, dans un communiqué, autorisé la suspension du trafic entre les deux pays. Les détails avec Khalifa Goïta.
Pour le syndicat national des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali, cette suspension de trafic ne concerne que les gros porteurs et cars de transport et n'engage que les conducteurs routiers membres du regroupement. Ils expliquent qu'elle ne vise qu'à protéger les chauffeurs, les engins et les biens qu'ils transportent. Souleymane Koumaré, chargé de communication du Sinacor Mali.
On a décrété une arrêt qui n'a pas de fin juste pour nous-mêmes. Et à Kaolack, on a appris que on peut faire venir les camions qui sont chargés, mais arrivés à la rentrée de Kaolack seront sortis par la police. Il faut qu'on nous dise quelque chose parce que ce n'est pas une première fois. Aujourd'hui, on a tous les 1000 problèmes, ça ne va pas.
Le syndicat national des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali invite les responsables des deux pays à intensifier la carte de l'apaisement.
Il faut que les deux pays essayent de s'asseoir et de discuter. Et chacun doit dire à sa population, quand il y a quelque chose comme ça, ça doit se faire défendre par l'autorité compétente.
Cependant, des économistes soutiennent que les conséquences de cette suspension de trafic entre les deux pays seront incalculables tant sur l'économie du pays que sur les populations. Modibo Mao Makalou, économiste.
Le port de Dakar a un rôle vital pour l'économie sénégalaise et pour l'économie malienne. Parce que sur 3 de nos importations et exportations, il y en a 2 qui passent par le Sénégal. Les deux économies sont interdépendantes. Donc il va falloir trouver un terrain d'entente assez rapidement.
Toutefois, certaines sources jointes à Kaolack au Sénégal affirment que le trafic a repris ce lundi entre les deux pays après une suspension d'une journée pour des mesures de sécurité. Du côté de Dakar, on rassure également qu'une enquête est ouverte et les auteurs seront traduits devant la justice.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Je l'annonçais dans les titres, les examens des épreuves du DEF ont été surveillés par des enseignants volontaires. Pour la circonstance, en revue, les anciens signataires du 15 octobre 2016 ont boycotté la surveillance des examens. Cette situation laisse apparaître des interrogations et inquiétudes par rapport à la correction de ces épreuves. Mariam Koulibaly.
Mamadi Keïta est le président du centre Marie Diarra 1 d'Amdalaï. Boubacar Fofana est celui du centre Mamadou Konaté 2, délocalisé au lycée Notre-Dame du Niger. Pour la surveillance, ils disent avoir fait avec les moyens du bord.
Beaucoup ne s'ouvrent pas dans la même trompette. Certains ont répondu. On s'occupe pas de ceux qui n'ont pas répondu, on s'occupe pas d'eux. On s'occupe de ceux qui sont là, ceux qui sont nationalistes, ceux qui veulent travailler pour les enfants.
Il y a eu quelques absences des surveillants, 6 à peu près, qu'on a pu remplacer. Un peu comme le plan B, quoi. Fallait que le travail se fasse.
Mohamed Maïga, directeur du Centre national des examens et concours, soutient que d'autres enseignants ont été recrutés pour surveiller les examens. Pour la correction des épreuves, il affirme que la décision revient au directeur d'académie.
Des écoles privées, on a pu trouver les surveillants nécessaires pour surveiller les candidats. On a augmenté le nombre de forces de sécurité au niveau de chaque centre. Les DAE aussi me donnent des informations de l'intérieur. Il n'y a aucun problème. Certains qui ont surveillé le BT et le CAP, mais en plus de ça, comme à ODEP, il y a beaucoup plus de centres. Il y a eu des enseignants supplémentaires. Il y a même des enseignants qui enseignent dans les écoles publiques qui ont surveillé aussi, qui ne sont pas des grévistes.
Beaucoup d'élèves trouvent déplorables les conditions dans lesquelles ces examens de fin d'année se tiennent. Ils souhaitent une entente entre les différents acteurs.
Sur un autre sujet, faut-il prolonger la durée de la transition ou pas? La question divise de plus en plus la classe politique et la société civile. Les partis politiques s'opposent à l'idée et exigent le respect du délai de la période transitoire. Des organisations de la société civile estiment qu'il est nécessaire de proroger la durée en vue de poser les jalons d'un Mali nouveau. Moussa Malé Sissoko.
Pour le porte-parole du collectif des jeunes patriotes, il faut donner plus du temps de travail aux nouvelles autorités pour refonder le Mali. Selon Bill Traoré, les raisons qui ont provoqué la chute du régime IBK demeurent toujours d'actualité.
Les réformes institutionnelles, les réformes politiques permettent quand même au futur président de faciliter lui quand même son travail. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est de ça que nous voulons éviter en réalité. Parce que si on se précipite d'aller à une élection comme ça, nous serons confrontés aux mêmes problèmes qui ont fait que nous sommes venus à cette transition.
Le Parti pour la Renaissance Nationale Parena est formel et catégorique sur la question. Pour Djigba Keïta d'IPPR, secrétaire général du Parena, il faut prioriser les élections législatives et présidentielles pour que la transition ne soit pas prolongée.
Nous avons dit que le propre d'une transition, c'est ne pas être longue. Les longues transitions, c'est comme les longues fiançailles. Elles sont en général dangereuses. Le manque de volonté politique des autorités, c'est ce qui nous traîne jusqu'à ce point sans qu'ils aient poser un seul acte. On est engagé pour 18 mois.
Rappelons que le chef du gouvernement Choguel Kokala Maïga a insisté sur le respect de la durée de la transition. C'était le 30 juillet dernier lors de la présentation du plan d'action de son gouvernement devant le Conseil national de transition CNT.
L'entretien à Bamako d'un projet intitulé Protection, Résilience, Cohésion, initié par la Croix-Rouge malienne, ce programme vise à apporter une assistance et une protection aux personnes déplacées internes. D'un montant de plus de 800 millions de francs CFA, le programme durera 4 ans. Il couvrira la région de Gao et les districts de Bamako. Nouhoum Maïga, secrétaire général de la Croix-Rouge malienne, est au micro de Mahaman Baba Kunta.
C'est un projet qui aura comme activité essentielle l'assistance à travers les cash transferts, c'est-à-dire les transferts monétaires, la mise en place des activités génératrices de revenus pour les associations de femmes, le soutien psychosocial aussi à l'endroit des populations qui sont affectées par le conflit et le renforcement des capacités des organisations communautaires à la base au sein de ces communautés et de populations déplacées et de communautés hautes affectées par le conflit. Donc le principal motif, c'est l'analyse des besoin qui nous a amené effectivement à choisir la région de Gao. Et dans cette analyse, on tient compte aussi des interventions et des acteurs qui se trouvent sur place. Et nous travaillons en complémentarité et en synergie avec les autres acteurs, notamment dans ces domaines-là que nous avons choisis.
Le kilo de la viande a connu au cours de ces derniers jours une légère hausse sur plusieurs marchés de Bamako. Le kilo de la viande avec os se vend maintenant à 2800 francs CFA et celui sans os est cédé à 3300 francs CFA. Cette augmentation déplorée par les consommateurs serait due à la suspension de la convention entre les bouchers et le gouvernement. Toutefois, d'autres denrées de première nécessité comme le riz, l'huile ont aussi connu une augmentation. Fatih Attara a fait un tour dans certains marchés de la capitale. Voici son reportage.
Du marché de Nyamakoro et Kalabankoro, en passant par celui de Dibidani et Badalabougou, le prix du kilo de viande a connu une hausse. Pour les bouchers, il est impossible de vendre le kilo en dessous du prix sur les marchés à cause notamment de la cherté des bœufs. Amadou Sempara, chef de boucher au marché de Badalabougou.
Le bœuf avant cette cherté, on l'avait à 250 000 francs. Maintenant, nous l'achetons à 400 000 francs.
Cette cherté de la viande est inacceptable, dénoncent de nombreux consommateurs rencontrés sur ces marchés. Ils regrettent aussi que les poissons sur lesquels ils essaient de se rabattre a connu aussi une augmentation.
Nous les femmes, nous souffrons beaucoup au marché. Que ce soit la viande ou le poisson, tout est cher. Le gouvernement doit agir.
Vu la cherté que nous traversons, nous ne pouvons payer ni viande ni poisson. Nous sommes conscientes des difficultés.
difficultés, mais que le gouvernement trouve un terrain d'entente avec les bouchers.
Depuis un moment, les prix de certains produits ne cessent de grimper, et cela malgré les contestations des associations de consommateurs. Les prix de 50 kg de riz de Gambiaka, aussi entre 21 000 et 23 000 francs CFA, selon les marchés. Les litres de l'huile est cédé à 1 200 francs CFA.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
À présent, un tour en région. Trois passagers ont trouvé la mort dans un accident de circulation sur l'axe Sikasso-Eremakono le 15 août 2021. L'engin est rentré en collision avec une voiture d'un particulier. Sur place, une femme et deux hommes. Selon un témoin, l'éclatement d'une roue d'un camion Ben est à l'origine du drame. Trois enfants ont perdu la vie par noyade la semaine dernière. C'était à Koury, dans le cercle de sang. Leurs corps ont été retrouvés mardi dernier près des marigots. Les victimes auraient quitté Koury pour rentrer au village pour les vacances dans une charrette au niveau d'un pont. Elles ont perdu le contrôle de la charrette et se sont retrouvées dans un marigot. À présent, nous recevons Mohamedou Touré dans le studio pour l'introduction du Grand Dialogue. Bonsoir Mohamedou.
Bonsoir Amsetou Gogo Touré.
Quel est le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui?
Le président, l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, a été contraint à démissionner le 18 août 2020. Demain 18 août, cela va faire une année. Qu'est-ce qui a changé au Mali depuis son départ? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir. Et nos invités sont Sékou Niamé Batili du parti RPM, Amidou Doumbia du parti LMA et Mamadou Bilali Traoré du collectif des Jeunes Patriotes.
Merci Mohamedou. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web au www.studiotamani.org ou en appelant gratuitement sur la plateforme Viamo au 37 321. C'est la fin de ce journal, mais restez à l'écoute dans un instant. La question A. De nombreux dossiers sont en cours de traitement au niveau du tribunal de la commune 4 du district de Bamako. Des enquêtes ouvertes, des présumés coupables interpellés, des mandats de dépôt émis à l'encontre de Karim Keïta. Au-delà de ces dossiers sur des atteintes aux droits humains, le procureur Idrissa Touré a mis un mandat de dépôt contre trois femmes maliennes pour outrage aux mœurs. Le procureur a-t-il les moyens de son engagement? Que faut-il faire pour redorer le blason de la justice au Mali? Idrissa Hamidou Touré, procureur général près du tribunal de grande instance de la commune 4 du district de Bamako, répond aux questions de Moussa Malé Sissoko.
Dans notre parquet, il y a toutes sortes de dossiers en cours de traitement. Il y a toutes sortes d'infractions. Il y a des cas de vol, il y a des cas de d'escroquerie, d'abus de confiance, de homicide involontaire, de blessés de pédophiles, etc.
À vous entendre parler, monsieur le procureur, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez le moyen de votre politique?
Quelle politique? Nous, on n'a pas de politique, on applique une politique pénale qui n'émane pas de nous. On exécute ce que la loi nous demande d'exécuter. Et la loi veut que l'on travaille ainsi. Le premier moyen pour arriver à faire correctement un travail, c'est d'abord la volonté. Parce qu'on fait le travail par conviction et non pas par nécessité. Les juges, ils montent des fois avec plus de 100 dossiers. Même si dans chaque dossier, il n'y a que 2 personnes, ça fait déjà 200 personnes à entendre au cours de la journée. Derrière, il y a un gros travail qui est abattu, mais qui n'est pas su parce que la justice ne communique pas souvent.
Récemment, vous avez instruit au commissariat de police d'interpeller les auteurs des affiches qui proposent des médicaments miraculeux aux gens. Est-ce ceux qui occupent nos antennes sont aussi concernés par cette mesure?
Ils sont tous les mêmes de toutes les façons, mais c'est tout se fait par étapes. Mais c'est les affiches obscènes. En fait, c'est ce qui a attiré nous notre attention pour l'instant. Vous vous arrêtez au feu tricolore, vous voyez ces affiches-là. Il aurait fallu que l'on ouvre une enquête préliminaire autour de ça pour découvrir que derrière il y a toute une escroquerie, toute une bande organisée composée essentiellement d'étrangers.
Derrière ces interpellations se cache une ambition politique. Qu'en dites-vous?
Mais vous aussi, quand même. Je suis un magistrat, moi. Ça me suffit largement.
Alors, quels sont les freins qui entravent le déroulement d'une justice équitable au Mali?
La volonté, non pas que des acteurs judiciaires, mais aussi des pouvoirs publics. Mais pas, j'allais même commencer par dire, pas que des pouvoirs publics, mais aussi des acteurs judiciaires. C'est une question de volonté. Quand on veut bouger les choses positivement, on le fait. Nos hommes qui sont au front, qui se battent, ils n'ont pas forcément tous les moyens. Ils sont d'ailleurs les seuls méritants de la République. Pourtant, ils se battent à longueur de journée. Et ils perdent la vie, et ils se battent pourtant. Dans une résilience presque surhumaine, on peut tous faire la même chose pour faire bouger les choses.
Et recevez-vous des menaces ou des pressions suite à des interpellations?
Non, moi je ne suis pas un homme qui marche à pression. Non. Je ne marche ni aux pressions, ni aux intimidations, ni aux influences. Non. Maintenant, mon travail même, c'est un travail de menace. Il faut intégrer ça dans les démarches. En fait, vous savez, redorer le blason de la justice malienne, là, ça ne se fera pas que par les seuls acteurs de la justice, hein, mais aussi par les justiciables, eux aussi. C'est pas vous qui démarchez les juges, c'est vous qui partez vers eux. Maintenant, il faudra que l'on change de cette culture-là. Un changement de mentalité de tous. Personne ne peut redresser tout seul. Il faut qu'ensemble, on ait une certaine volonté. Et en ce moment, chacun à son petit niveau fait ce qu'il a à faire, mais correctement. Vous allez voir, ça va changer.